J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui fuit l'idée de la mort. Toute son existence est construite autour de cet évitement, de ce déni. Dès que la pensée de la mort pointe son nez, il se met à bosser comme un dératé ou à ranger son appart comme un maniaque. Il faut dire qu'il est bien aidé par son époque. Les cérémonies d'enterrement durent de moins en moins longtemps. C'est à se demander si elles n'auront pas bientôt lieu en visio. La mort en distanciel, lui, ça ne le dérangerait pas. Les convois funéraires ne sont plus ce qu'ils étaient, comme s'il fallait cacher la mort. Il n'y a pas si longtemps, les hommes et les femmes mouraient en public, entourés, soutenus, accompagnés. Et figurez-vous que dans les cimetières, on trouvait même des bars. Aujourd'hui, les gens meurent seuls, loin des leurs, dans leur chambre d'hôpital ou d'EHPAD. Et quand ils sont passés de l'autre côté, ils sont enterrés dans des cimetières qui ont déserté les centres-villes et ont été relégués en périphérie. Il a passé toute sa vie à écourter sa présence aux enterrements, à éviter tous les lieux de culte. Quelque chose dans le recueillement, dans le silence, l'avait toujours angoissé. Il lui fallait avancer, foncer, passer à autre chose. Et puis, un jour, il a perdu son père. Il a récupéré les quelques affaires de son père dans l'EHPAD et a échangé quelques mots avec le directeur. 5 minutes. Il a veillé son père dans une petite chambre mortuaire d'une neutralité absolue, avec en tout et pour tout, pour seule décoration, une pauvre croûte représentant un cheval dans un champ. 25 minutes. Le maître des cérémonies laïques, qui s'est chargé de la cérémonie, lui a semblé peu inspiré. Et puis, ce fut tout. Il s'est retrouvé au volant de sa voiture. Quand même pour lui, c'était allé un peu vite. Il se sentait mal vis-à-vis de son père. Il aurait aimé qu'on parle plus de lui, qu'il y ait plus de récits, de la musique. Maître de cérémonie, il a eu soudain envie de crier. Mais il n'y a pas eu de cérémonie, même pas de cérémonial et encore moins de maître. Son père valait mieux que ça. Il aurait voulu qu'on prenne le temps d'honorer sa mémoire, qu'on choisisse pour cela un espace moins neutre. Il aurait voulu, lui qui détestait toutes les religions, quelque chose d'un peu sacré. Il lui sembla soudain qu'il n'y avait rien de plus morbide que ce pauvre empressement sans beauté ni conscience, rien de plus morbide que cet évitement de la mort. Pour parler ce matin de notre société qui ne veut plus voir la mort, j'ai la joie de recevoir une urbaniste, philosophe de formation, qui fut chargée des affaires funéraires de la ville de Paris et a tiré de cette expérience singulière un petit essai brillant aux éditions Alary, Redonner une place à nos morts. Marion Valeur est aujourd'hui sur le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette joyeuse question. Et si c'était notre rapport à la mort qui disait le mieux notre manière d'être vivant?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Marion Valeur.
Bonjour.
Alors, vous avez sorti ce livre, le titre déjà dit tout, Redonner une place à nos morts. Alors, on va aborder cette question philosophique et même sociétale, qui est, au fond, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à nous-mêmes, à notre époque, que la manière dont nous traitons nos morts et dont nous ne leur faisons pas suffisamment de place. Mais avant cela, je voudrais qu'on comprenne d'où vous parlez. Aujourd'hui, vous dirigez le pavillon de l'Arsenal, mais auparavant, vous avez été en charge des affaires funéraires à la mairie de Paris. Et c'était quoi votre quotidien? C'était quoi ce métier?
Alors, c'était un métier assez particulier, puisque en fait, moi, j'étais en lien avec des personnes en deuil qui contactaient la mairie de Paris parce qu'elles avaient un problème, parce qu'il y avait un deuil particulièrement difficile, qu'il y avait un problème pratique. La mort, ça génère beaucoup de problèmes pratiques au niveau des places en cimetière, ouais, au niveau des modes d'enterrement. Et donc, j'étais en lien avec ces familles. Et puis, je faisais le lien avec l'administration, le service des cimetières. Et on tentait de trouver des solutions.
Donc, ça veut dire que vous gériez tout, les familles, les personnels, les croque-morts, enfin tout ça, quoi.
Alors, en fait, il y a un service qui s'occupe de ça au sein de la mairie de Paris qui s'appelle le service des cimetières. Et moi, je travaillais pour la maire de Paris. Et ouais, donc,
Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, ouais, tout à fait. Et donc, je faisais le lien, un peu d'accord, entre la politique aussi, en lien avec toutes ces familles, et puis ce service des cimetières.
Ah oui, et
des
c'est
cimetières.
Là qu'on comprend que c'est intéressant que vous soyez aussi urbaniste, parce que c'est aussi une question d'urbanisme. Où est le cimetière? Comment il est organisé? Les cimetières, vous nous racontez, c'est un peu comme des petites villes, en fait.
Absolument. Chaque cimetière à gérer, c'est extrêmement complexe. Chaque cimetière a son conservateur et chaque cimetière a son histoire, évidemment, entre le Père Lachaise ou le cimetière de Bagneux qui appartient à la ville de Paris, mmh, ça n'a rien à voir. Et on doit tout le temps réguler les usages, se dire qu'est-ce qu'on y autorise, qu'est-ce qu'on n'y autorise pas. Il y a des gens qui veulent pique-niquer, faire des footings. Est-ce que c'est autorisé ou
moi,
pas?
Moi, je pense qu'ils ont raison.
C'est une question. Voilà.
D'ailleurs, on apprend dans votre livre, moi j'avoue que je ne savais pas, ça m'a d'ailleurs surpris de ne pas le savoir, et c'est sûrement symptomatique, qu'avant, il y avait des bars dans les cimetières, il y avait même des balles.
Oui, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai découvert ça. En fait, les cimetières étaient vraiment des lieux de vie. Dans Paris, il y avait des cimetières où vraiment, c'était des petites villes, mais extrêmement vivantes, où on allait pour voir des écrivains publics. Bon, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait aussi de la prostitution, des activités interdites. Mais dans tous les cas, c'était vraiment des lieux de vie. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, voire plus du tout le cas à certains endroits.
Alors, il faut savoir que j'avais reçu dans cette émission, donc à votre place, Delphine Horvilleur, il n'y a pas très longtemps, pour son très beau livre « Vivre avec nos morts ». Et là, le vôtre, quelque part, dit un peu la même chose, mais sous un jour beaucoup plus concret, beaucoup plus organisationnel, redonner une place à nos morts. Mais l'idée est quand même la même. C'est qu'être vraiment vivant, être vraiment humain, c'est faire une place, c'est vivre avec nos morts, c'est prolonger la discussion, prolonger l'histoire, ne pas se débarrasser avec empressement de cette chose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous nous dites que finalement nous sommes en train de vivre une anomalie historique, que ça n'a jamais été comme ça par le passé. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire grosso modo les gros traits de cette anomalie et après essayer de l'expliquer ?
Effectivement, toutes les personnes qui travaillent sur la mort, je crois aujourd'hui, que ça soit d'un point de vue religieux ou laïque, ressentent qu'il y a un vide, qu'il y a cette anomalie. Cette anomalie, pour moi, c'est le fait que c'est à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire la place qu'on donne au deuil, en fait, le temps qu'on va donner à une mort. Vous l'avez dit au début, aujourd'hui, une cérémonie, elle dure parfois 20 minutes.
Ouais.
Rien que ce chiffre, 20 minutes. Est-ce qu'on peut honorer une personne en 20 minutes dans un lieu, en plus, qui, pour le cas des lieux laïcs aujourd'hui, souvent n'exprime pas grand-chose, ne permet pas une vraie cérémonie. Ça nous interroge énormément. Et donc, c'est là où, pour moi, il y a une anomalie. C'est vraiment dans le fait qu'avant, il y avait des cérémonies qui pouvaient durer des jours. Aujourd'hui, ça peut durer 20 minutes. Que le lieu, il était au cœur de la ville, qu'on lui donnait toute une place, tout un décorum. Et aujourd'hui, ce sont des lieux extrêmement neutres. Et donc, pour moi, c'est tout ça qui crée cette culture de la mort qui est aujourd'hui difficile, je crois, pour beaucoup de gens. Et en fait, je pense que Delphine Horvilleur, elle l'a ressenti en voyant beaucoup de gens qui, en fait, aussi revenaient à la religion parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des rites laïques, même quand ils n'étaient plus religieux.
Ouais.
Et moi, je l'ai vu avec beaucoup de gens, en fait, qui avaient l'air de souffrir de ce que propose aujourd'hui la société dans ce moment-là.
Je vous lis Marion Valère dans votre livre « Redonner une place à nos morts » aux éditions Allary. « Au cimetière, les tombes récentes se succèdent et se ressemblent plus ou moins. Il ne s'agit pas du domaine le plus créatif qui soit. Allée minérale, matériaux standardisés, décoration limitée. Pourquoi cette apparence et pas une autre ? Les tombeaux égyptiens étaient richement décorés. Les cimetières mexicains célèbrent les morts avec des couleurs chatoyantes, des bougies et des fleurs. » Au regard de notre propre passé, nous pouvons nous interroger sur ce que sont devenues les maisons des morts en France. Alors, on va écouter un extrait que je vous ai préparé, qui permet peut-être d'envisager aussi des propositions. Ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre, je le précise tout de suite.
À Viry-Châtillon, il y a quelques mois, on a voulu fermer le cimetière, tout simplement parce qu'il était devenu trop petit. Finalement, la municipalité a choisi une autre solution, une solution qui n'est pas forcément la plus simple.
Comment avez-vous fait ici à Viry, là ?
Ben, vous savez, nous avons pris tous les terrains grâce à l'amabilité des voisins, tous les terrains disponibles, et pour ne pas gêner ces gens, nous les avons laissés aussi longtemps que possible, quoique ces terrains soient tout de même la propriété de la commune.
On a donc déplacé le mur d'enceinte, puis on s'est aperçu que les habitants des terrains expropriés ne voulaient plus partir. Résultat, il y a aujourd'hui 3 pavillons à l'intérieur du cimetière, dont celui de M. Husseglio, un solide retraité de 84 ans.
Je ne paye plus de loyer, je ne paye pas d'eau, il y a l'eau dans le cimetière.
Vous voulez rester ici ?
Oui, j'ai pas envie de mourir.
Pourquoi ?
Je suis bien là, puis j'ai des fleurs toute l'année.
Vous avez des fleurs toute l'année ?
Oui, bah oui, bien qu'il y ait des fleurs toute l'année.
Alors Marion Valeur, ça vous inspire quoi ?
Bah, c'est intéressant quand les personnes qui vivent à proximité des cimetières parfois, justement, ressentent une certaine paix, n'ont pas envie d'en partir, visiblement, ouais. comme ce monsieur. Et je crois que, justement, ça nous montre qu'on peut apprendre à vivre avec nos morts et que ce ne sont pas forcément des lieux terrible, glauque.
Oui, bien sûr.
Voilà, que ça, en fait, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos villes qu'on doit apprendre à vivre avec et non pas à les cacher.
Alors revenons à votre constat, avant d'aller vers les propositions. C'est symptomatique de quoi ? Parce qu'en fait, c'est ça votre thèse. En gros, on pourrait dire que vous dites « Montre-moi comment tu traites tes morts, je te dirai qui tu es en tant que société. » Qui tu es, d'ailleurs, j'ai pas pensé au jeu de mots. Mais comment vous l'interprétez ? Ça nous dit quoi ? Que nous sommes des individus non reliés aux autres, que nous sommes pressés, que nous mourrons à petit feu, peut-être ? Ça nous dit quoi ?
Ça dit beaucoup de choses. Déjà, une forme d'individualisme, je pense. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené Edgar Morin à parler de crise de la mort. Il a publié un livre là-dessus. Parce que, effectivement, pourquoi est-ce qu'on est un peu démunis aujourd'hui au moment de la mort, de l'enterrement ? C'est qu'on est moins clairement relié à certaines grandes structures qui nous dictent des rites, que ce soit une religion, un État. Et on n'a pas su vraiment remplacer, recréer des structures qui nous accompagnent dans ce moment. Je parle de la religion, de l'État, mais il y a bien sûr le lien à la famille. Le fait que il y a des personnes qui sont tout simplement abandonnées, c'est-à-dire que personne ne veut vraiment s'occuper de leur enterrement, elles ont fini leur vie toutes seules et elles meurent seules en fait. Mmh. Et donc il y a effectivement ce lien au collectif et à des grandes structures, ça c'est la première chose. Et puis ensuite il y a le lien au sacré et vraiment le sacré dans un sens large et pas forcément uniquement religieux, qui est notre lien à l'au-delà, à des récits, à des mythes, à des rites. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est finalement, qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui, quoi ? Parce que, en fait, un enterrement, c'est un moment où on se raconte des histoires. On se raconte le fait qu'on est encore ensemble. On raconte une vie, d'abord, mais on raconte jamais seulement une vie. On raconte tous les gens qu'il y a autour, toute la communauté, et comment on va continuer ensemble sans cette personne, parce qu'on se rappelle de cette personne. Mais en fait, c'est là où il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à bâtir ces récits sur l'après, sur ce qui nous tient ensemble.
Mais ça veut dire aussi peut-être qu'on ne sait plus raconter d'histoire. Au-delà d'être des individus et d'être orphelin d'un certain sacré, il y a peut-être ça aussi.
Oui.
Peut-être qu'on ne sait plus parler aussi. Se parler.
Oui. Oui, et puis, c'est... qu'est-ce qu'on peut... Quand même, qu'est-ce qu'on peut se raconter à... Dans un temps où il y a une crise par rapport à la finitude écologique aussi. Enfin, j'évoque ce point dans le livre et il me semble hyper important. C'est-à-dire le pessimisme aujourd'hui qu'il y a fait que on se dit qu'on veut souhaiter pour les prochains une vie peut-être pas trop pire.
Ouais.
Mais toutes les expressions qu'il y a autour de la mort comme partir en paix, c'est difficile aujourd'hui de se dire ça avec la crise écologique, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est là aussi où il y a une difficulté du récit sur l'avenir en fait.
Mais est-ce que c'est, comme vous êtes aussi, enfin d'abord d'ailleurs urbaniste, est-ce que l'explication elle n'est pas aussi à chercher dans le rapport à la ville, le convoi funéraire, maintenant il n'y a plus de place pour les voitures, ou il y a des trop gros embouteillages, les cimetières c'est trop cher de les mettre en centre-ville, est-ce qu'il n'y a pas aussi une clé à chercher au fond dans une vision de l'urbanisme ?
Bien sûr, mais c'est intrinsèquement lié puisque les villes de toute façon... ne sont qu'une application concrète justement de tout ce rapport à des structures collectives, de ce rapport au sacré. Le sacré, il a été souvent à l'origine des villes.
Ouais.
Et aujourd'hui, on voit que des lieux comme les lieux de mort, on sait plus trop où les mettre ni comment les dessiner. Et finalement, l'urbanisme, c'est une des choses qui découle de ces grandes structures et qui nous montre que on n'est pas très au clair sur la place qu'on veut donner à ces lieux-là.
Et ce qu'on comprend bien aussi en vous lisant, c'est que peut-être en ayant quelque part exclu le sacré, on pourrait dire, du centre des villes, en l'ayant relégué en périphérie, on rate peut-être quelque chose de notre vitalité.
Yeah.
évidemment, Rita Mitsuko, Marcia Baila.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours sur France Inter avec Marion Valère et votre livre « Redonner une place à nos morts » sorti aux éditions Allary. Je vous rassure, c'est un livre assez joyeux, avec plein de propositions. Un livre aussi qui fait un constat assez dur que vous faites, Marion Valère, vous êtes urbaniste, vous avez dirigé les services funéraires à la mairie de Paris et vous avez tiré de cette expérience ce livre assez passionnant. Et d'ailleurs, je vais lire un extrait pour qu'on comprenne un peu votre ton. Donc je vous lis, Marion Valère. « L'idée d'un royaume des morts semble avoir émergé très tôt dans l'esprit des premiers hommes. Nous retrouvons vite une tendance à chercher des endroits spécifiques, où seraient cachés les morts, et l'idée que les tremblements de terre viendraient de ce royaume. Nous imaginons depuis longtemps des passages entre le monde des vivants et celui des morts, des possibilités pour les morts d'agir sur les vivants, ce qui influence les modes de sépulture. Face à la peur que les morts reviennent, plusieurs stratégies sont élaborées, que l'historien et critique d'art Michel Ragon classifie ainsi. La persuasion, la conciliation, la ruse ou la force. Écoutez bien, certains peuples adoptent des mesures drastiques. Les jeter au sur les îles Salomon, les offrir aux vautours au Tibet, les mélanger à la nourriture en Indonésie, Mélanésie ou Polynésie, en faire une liqueur chez les Indiens guyanais ou les déterrer, puis les décapiter, comme ce fut le cas en France au XVIIIe siècle. Pour décourager les revenants, on peut brûler la hutte du mort, répandre de l'urine sur le seuil de la maison, tendre des filets, établir des barrières de feu ou d'eau. La conciliation s'incarne, elle, dans la création d'espaces et d'hommages dédiés qui permettent de laisser aux morts une place suffisante pour qu'ils ne reviennent pas hanter les vivants. Est-ce que c'est pas ce que nous, on est en train d'échouer à faire, de leur donner la bonne place? Et est-ce qu'on va pas être rattrapé au fond?
Oui, je pense que on a fait de la mort le grand tabou aujourd'hui. Et en fait, ça nous rattrape de partout, ça crée des deuils extrêmement difficiles. Parce que justement, si on ne donne pas de place aux défunts, si on ne donne pas de place au deuil, cela crée énormément de souffrance et de solitude. Et puis cela crée, je pense, des angoisses. Et finalement, quand on regarde l'histoire des mythes de la mort, on négocie toujours avec la mort.
Voilà, c'est ça.
On joue un peu avec la mort, avec la place qu'on lui donne, mais elle a toujours été là, elle a toujours eu une place. Et le fait qu'elle n'ait pas de place, ça, je pense que ça, c'est vraiment pas possible, en fait.
Mais cela dit, il y a d'autres cultures qui ont aussi voulu s'en débarrasser de manière un peu rapide. Quand ils les offrent aux vautours au Tibet, par exemple, est-ce que c'est mieux que nous?
Il y a plein de techniques, effectivement. On a toujours peur la peur des fantômes, par exemple, c'est quelque chose de très répandu, et donc on a peur qu'ils reviennent. Donc face à ça, on trouve plein de techniques, mais le sujet, c'est vraiment la place qu'on leur donne dans un sens large, c'est-à-dire qu'on peut faire disparaître le corps tout en donnant une certaine place aux morts par ailleurs.
Et puis en y pensant, en se retrouvant pour en parler.
Tout à fait.
Il y a ce rite très intéressant chez les Juifs, on se retrouve au bout de 7 jours, puis au bout d'un mois, et comme ça, on a ritualisé le fait de se retrouver pour entendre des récits. Bah, c'est Delphine Orvilleur, d'ailleurs, qui le fait très bien, et qui en parle très bien. Et vous savez, il y a, quand je vous ai lu, ça m'a fait penser donc à Delphine Orvilleur, mais aussi à Freud, dans son livre que vous connaissez peut-être, de 1905, un petit bijou, Les considérations sur la guerre et sur la mort. Et Freud nous montre que pour un individu comme pour une civilisation, finalement, plus on est capable de regarder la mort en face, d'y penser, de lui faire une place, au fond, plus on est vivant en tant que civilisation.
Oui, je pense que moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont travaillé sur la mort disent toujours que ça a eu un effet très important sur leur vie. Et d'ailleurs, quand on lit des récits de vie, c'est toujours très intéressant. Moi, je suis attentive à ça, de voir comment les personnes racontent leur deuil, comment ils racontent, comment ce sont des moments clés dans leur vie, en fait. Et donc, la confrontation à la mort, elle crée toujours quelque chose. Et quand on est confronté à beaucoup, beaucoup de morts, bah, ça crée forcément quelque chose. Et je crois que ça nous crée un rapport différent à la vie.
Et d'ailleurs, vous avez fait ce métier en étant relativement jeune. Je me permets de donner votre âge parce que c'est intéressant. Là, vous avez 32 ans, donc quand vous avez fait ça, vous aviez moins de 30 ans. Est-ce que c'est pas un peu particulier d'être une jeune fille de 28 ans et de prendre, comme vous le dites dans le livre, votre voix funéraire, d'avoir cette capacité d'empathie, cette qualité d'écoute? Comment c'est, ça doit être dur au quotidien?
Oui, c'est particulier et très honnêtement, je suis heureuse d'en être sortie aussi.
Ah oui, c'était quand même dur.
Bah oui, parce que quand on est dedans, on trouve ça normal que la mort ait une telle place. Justement, là, moi, elle avait beaucoup de place. Mais maintenant que j'en suis sortie, je suis contente que de pas avoir un lien à la mort tous les jours, en fait. Enfin, oui. On en rigolait beaucoup. En général, les personnes qui travaillent sur ces sujets sont vraiment formidables. Donc, ça aide aussi parce qu'on est avec des gens super. Mais bien sûr que c'est très difficile. Et moi, de parler à des personnes en deuil, en plus, c'est un métier que j'ai fait. Voilà, j'avais pas été extrêmement formée à ça. C'est très difficile, en fait. C'est, on doit absorber la souffrance d'autrui. Et effectivement, j'étais assez jeune. Donc oui, c'est difficile.
Si on repose la question de votre titre, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une place suffisante à nos morts? Une première réponse que vous avez abordée, c'est parce qu'on est pressé, parce qu'on est moins relié, parce qu'on est moins conscient, parce qu'on est moins vivant. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi chercher une interprétation possible du côté du narcissisme? Parce que nous, on prend trop de place, en fait, parce qu'on est trop intéressé par soi-même. Est-ce que ce n'est pas aussi un éclairage possible?
J'avais pas pensé effectivement à cet angle, mais je le trouve intéressant. C'est effectivement notre capacité à faire place à l'autre. Et puis, surtout, au-delà du narcissisme, je parlerai de la place qu'on fait à la vulnérabilité.
Oui, tout à fait.
Parce que ça rejoint ce que disent beaucoup d'autres personnes aussi sur les EHPAD, sur les personnes âgées aujourd'hui. Quelle place en fait on fait à tout ce qui n'est pas au mieux de sa forme, en fait, ouais. À la vulnérabilité. C'est un énorme sujet aujourd'hui.
Et d'ailleurs, c'est très touchant dans votre livre. Vous parlez des morts invisibles, vous évoquez le travail de l'association des morts de rue. Vous dites que pour vous, la plus belle inscription possible sur une tombe, c'est « tout le monde était quelqu'un ».
Chacun était quelqu'un.
Voilà, chacun était quelqu'un. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée que le mort... c'est d'abord l'autre. Et que finalement, peut-être que ce qu'on veut pas voir, c'est juste l'altérité. Alors l'autre, il est peut-être mort, mais quand il était vivant, peut-être qu'on le faisait déjà pas assez de place, parce qu'on est trop auto-centré, obsédé par ses choses à faire, par sa reconnaissance, ses likes, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Et on sent ça dans votre livre. Et donc ça donne envie d'ailleurs de créer une autre société. On va venir d'ailleurs à vos propositions, mais peut-être autre interprétation possible de cette incapacité qu'on a à donner une place à nos morts, c'est aussi... peut-être cette idée que, en fait, on a peur, finalement, de ce que c'est qu'être vraiment vivant. Comment vous le définiriez, ça, être vraiment vivant? Parce qu'aujourd'hui, vous dirigez le pavillon de l'Arsenal, à Paris. Est-ce que finalement, votre travail ne permet pas de réfléchir à ce que c'est qu'être vraiment vivant, finalement?
C'est une question difficile, je réfléchis. Oui, bien sûr, quand on voit la mort en face, quand on est confronté à beaucoup de deuil, ça nous pose inévitablement la question de qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Qu'est-ce qu'être vivant? Qu'est-ce que être à la hauteur de sa vie, d'être vivant? Et ça nous pousse, je crois, à prendre plus conscience de certains choix. Ça nous pousse à une certaine responsabilité. En un sens, on peut moins se raconter d'histoire aussi. Et en même temps, il y a toujours ce risque aussi de justement d'avoir trop un sentiment d'urgence parce qu'on est confronté à la mort. Donc, moi personnellement, dans mes dialogues intérieurs, ça oscille beaucoup entre ces deux choses parce que parfois on se dit il faut vite faire ci ça. Et il faut pas non plus avoir une approche trop productiviste. Parce qu'on a pris conscience de la mort, vous voyez ce que je veux dire?
Et pourquoi la prise de conscience de la mort déclencherait cette attitude productiviste?
Parce que, en fait, je crois qu'on visualise plus le sablier.
Ouais.
On visualise plus la fin d'une vie et la fin de sa propre vie. Et donc, on se dit, qu'est-ce que je fais du temps qui reste?
Oui, mais après, on peut penser que ça, c'est le premier degré, une sorte de peur qui fait qu'on est dans l'empressement productiviste, mais que le deuxième degré, c'est qu'on dépasse la peur et qu'on est dans l'acceptation et même la confrontation à ce mystère. Et voilà, tous les philosophes l'ont dit, apprendre à mourir, Pascal, les pensées. En fait, plus on se confronte au mystère de ce qu'on appelle mort et qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas sa propre mort. La mort des autres ne nous dit rien sur notre propre mort. Et quelque part, plus on est vivant de se confronter à cette énigme. Venons à vos propositions concrètes et à des choses plus concrètes que vous expliquez très bien dans ce livre. Vous interprétez aussi le développement fulgurant de la crémation. On est passé de 1% des enterrements à 40% en quelques décennies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, c'est un mouvement majeur. C'est en lien avec... la baisse de la religion en France. Et aussi, je crois, beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de prendre trop de place. Justement, il y a cette idée et parfois un souci écologique aussi hein, qu'on retrouve là-dedans, qui disent je m'imagine pas prendre toute cette place au cimetière, ça n'a pas de sens. Mais donc, en fait, la crémation, ça prend moins de place, mais ça nécessite des lieux. Mmh. Et donc, c'est là où aujourd'hui, il y a la création en fait en France d'énormément de lieux très spéciaux que sont les crématoriums et où là moi je tire la sonnette d'alarme sur qu'est-ce qu'on en fait en fait, à quoi ça ressemble, est-ce que à un moment on s'est posé collectivement pour se dire à quoi doivent ressembler ces lieux et moi donc je dirige le pavillon de l'Arsenal qui est un centre d'architecture et je trouve que aujourd'hui en France on ne pose pas assez cette question en termes architecturaux. Moi je trouve qu'on devrait faire un grand concours sur toute la France et de dire bah à quoi doivent ressembler nos lieux de mort aujourd'hui ? C'est un des plus grands thèmes pour l'architecture.
C'est bien sûr une des propositions importantes de votre livre, avec l'idée de végétalisation, de personnalisation. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi on n'aurait pas le droit, il faudrait que la loi change, de davantage personnaliser une pierre tombale, de graver, de mettre de la vidéo, enfin j'en sais rien, on peut faire plein de choses. Et c'est bizarre, cette uniformisation. D'ailleurs, il y a aussi une nouvelle tendance, est-ce que vous connaissez, c'est l'humusation. C'est quoi ça ?
Alors l'humusation, c'est le fait de, en fait, d'être biodégradable et de se transformer en compost, ouais. En humus. Et c'est permis dans certains États aux États-Unis. Ce n'est pas encore permis en France, mais il y a une très forte demande citoyenne. Il y a une association qui porte ça. Qui propose d'avoir un peu une troisième voie, si vous voulez, face à l'inhumation, donc les tombes, et la crémation, et d'avoir cet autre processus qui permet de revenir en terre. Et au-delà de l'humusation, en fait, il y a une demande citoyenne très forte pour un retour à la nature dans la mort. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut entendre. Ouais. C'est ce besoin qui est exprimé de plein de manières, de dire, en fait, au moment de ma mort, j'ai envie de me réinscrire dans des cycles de la nature, dans des cycles du vivant. Donc certaines personnes disent, j'ai envie d'être transformée en arbre, j'ai envie d'être transformée en humus. Et je crois qu'il faut que la loi évolue pour s'ouvrir un peu à toutes ces pratiques et pour entendre ce besoin, parce que justement, ça donne un sens à la mort. Et c'est ça, en tout cas, le sens que beaucoup de gens veulent donner à leur mort. Donc, c'est intéressant.
Donc ça, c'est la dimension positive. Je vous lis encore une fois. Pourtant, les pistes pour mieux honorer les morts existent en transformant les lieux, en inventant de nouveaux rites, en donnant une place aux oubliés, en rapprochant davantage l'écologie du funéraire. Donc, je précise que dans le livre, il y a deux dimensions. Une dimension de constat un peu alarmiste et puis une dimension de proposition pleine d'espoir. Mais justement, je vous prends au mot. Là, on a des gens qui ont plus d'idées, qui disent « moi, je souhaite ça et je ne souhaite pas ça », qui mettent du sens. En fait, il faudrait peut-être inventer des nouveaux rites aussi, des rites qui vont avec ces nouvelles pratiques. Et j'ai envie encore de vous prendre en mot plus précisément, redonner une place à nos morts. On a parlé tout à l'heure d'altérité. On a vu que du côté du problème, il y a peut-être cette idée que, au fond, c'est l'autre auquel j'arrive pas à donner une place. Mais si je veux donner une place aux morts, peut-être qu'il faut donner une place à des morts singuliers. Et avoir le droit, vous êtes très attristé par les morts invisibles, les morts anonymes, peut-être qu'il faudrait inventer quelque chose d'autre où on peut plus singulariser au fond les rites funéraires. Et dans ce cas-là, on changerait d'époque aussi.
Bien sûr, moi je pense que c'est un champ de créativité et ouais. D'invention qui est énorme. En fait, c'est même fou qu'on n'en parle pas plus, parce que finalement...
Heureusement vous êtes là, je précise que ce livre, Redonner une place à nos morts, aux éditions Alary, est un livre assez joyeux finalement.
Oui, parce que je pense que vraiment, on peut inventer les rites funéraires qu'on veut, en fait. Moi, avec ce livre, je rencontre des personnes, parce qu'il y a dans un certain nombre de villes aujourd'hui, des personnes qui se mobilisent, notamment il y a tout un mouvement des coopératives funéraires qui se créent pour avoir des obsèques accessibles et justement assez personnalisées. Ouais. Et vraiment, il se passe à ces endroits-là des choses incroyables et des personnes qui sont extrêmement engagées et qui ont envie d'offrir les meilleurs enterrements à tout le monde et qui réfléchissent à quoi peut ressembler aujourd'hui un rite funéraire. Et au fond, ça peut ressembler à ce qu'on veut si on se pose la question, si on laisse un peu de place, si on donne un peu de temps à ça.
Et puis aussi, il faut changer les lois, parce que pour l'instant, on a des lois qui encadrent beaucoup, qui sont très limitantes.
Alors oui, mais pour les rites funéraires, honnêtement, on ne nous interdit pas non plus...
Moi, je crois quand même que la personnalisation des tombes est pour l'instant assez interdite, elle est très limitée.
Alors, sur à quoi peut ressembler une tombe, il y a des régulations, mais pareil, en fait, il y a aussi des choses qu'on s'interdit nous-mêmes.
Et ça, l'autocensure,
oui. Oui, il y a beaucoup d'autocensure. Et, alors, c'est de l'autocensure, et puis c'est aussi ce que nous proposent des entreprises de pompes funèbres, où parfois, oui, il y a une standardisation très importante, et donc, on arrive, et en fait, on nous dit, la mort, c'est en trois modèles, quoi. Oui. Alors qu'en fait, franchement, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Moi, je connais certaines personnes qui ont fait appel à des artistes, et en fait, ils ont pu le faire, c'était pas interdit, mais on ne le sait pas. En fait, la première chose, c'est déjà l'information. Dire aux citoyens, eh ben, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles.
Eh bien, c'est très intéressant, Marion Valeur, et on comprend justement en vous lisant qu'il peut y avoir de la joie dans la mort, et quelque part, c'est aussi un peu ce que me dit la voix de Robert Smith. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. C'était The Cure, évidemment, A Fragile Thing.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Marion Valeur et votre livre Redonner une place à nos morts aux éditions Alary, où justement, on vient d'écouter Cure, A Fragile Thing, bah justement, il est question de fragilité, de vulnérabilité, et d'essayer de faire une place à ça, de pas la fuir, de pas en avoir peur. Vous nous menacez un peu aussi, de toute façon on sera rattrapé par ce qu'on veut pas voir, dans un geste un peu freudien, vous nous montrez qu'il y aura un retour du refoulé, et de toute façon que c'est morbide, que c'est mortifère de ne pas faire une belle place à nos morts. Revenons à des propositions concrètes, je rappelle que vous êtes urbaniste et dirigez aussi le pavillon de l'Arsenal en ce moment. Il y a peut-être un projet intéressant aussi du côté de la végétalisation.
Oui, c'est un des grands mouvements aujourd'hui qui permet de transformer les lieux de mort pour y remettre plus de vie. Et c'est une demande très forte des citoyens. Alors, il y a des cimetières qui sont déjà des lieux de biodiversité.
Bien sûr.
Par exemple, le Père Lachaise à Paris, où pendant le confinement, il y avait eu beaucoup de photos des petits renardeaux qui séjournent. Il y a plus de 200 espèces au Père Lachaise. Mais au-delà de ces lieux historiques, je crois qu'on pourrait engager la transformation de beaucoup de cimetières en France qui sont très minéraux. Aujourd'hui, si vous allez dans un cimetière, parfois c'est que du gravier, c'est très très minéral, alors qu'en fait à l'étranger, en Suède par exemple, il y a des cimetières forêts qui émergent, et en France c'est quasiment inexistant aujourd'hui, alors qu'en fait c'est très agréable d'aller veiller ses morts dans un lieu qui est vraiment un lieu naturel, dans une forêt, où on n'est pas obligé d'avoir un alignement strict de tombes, mais ça peut être plus un lieu naturel où la mort s'intègre, plutôt qu'un lieu où on rajoute de la végétation à côté. Et donc je crois que là aussi, il y a un champ de créativité très important pour de nouveaux lieux de mort.
C'est joli d'entendre si souvent dans votre bouche ce mot de créativité au sujet de notre thème. Quel est, selon vous, Marion Valeur, le plus beau cimetière du monde ?
Moi j'aime beaucoup le cimetière San Michele à Venise,
oui,
qui est un cimetière île, parce que le fait que ça soit une île, justement, créer ce côté très sacré.
Mmh.
En fait, c'est une île qui est entièrement dédiée aux morts. Et donc, on y va en bateau. Et quand on arrive là, bah, on sait qu'on va passer un peu de temps avec les morts. Bon, en plus, on a une vue magnifique, évidemment. Mais j'aime bien le fait que tout de suite, on se sente ailleurs. Je crois que ça peut nous inspirer sur le fait que on peut avoir des cimetières îles, des cimetières forêts, en fait qu'on peut mêler des lieux naturels exceptionnels avec la mort.
Mais en même temps, vous contredisez un petit peu, parce que du coup, c'est pas dans la ville, c'est pas, on vit pas avec, c'est pas dans la quotidienneté. C'est justement, il faut sortir de la ville et aller sur l'île.
Oui, mais ceci dit, ce cimetière, il est pas isolé, il est quand même dans Venise, hein, c'est une île dans Venise, et je pense que les deux peuvent fonctionner. On peut avoir des cimetières en cœur de ville, et de toute façon, on n'a plus assez de place, il faut être réaliste, pour créer des nouveaux cimetières de zéro au cœur des villes, puisque de toute façon, il n'y a plus de place au cœur des villes.
C'est ça.
Donc, on peut avoir des cimetières en centre-ville, et puis on peut avoir des cimetières naturels, mais qui soient très beaux. C'est pas un cimetière caché dans une zone commerciale, quoi. Donc, je pense qu'il y a des... Il y a plein de possibles qu'on peut inventer.
Bien sûr. Alors, j'imagine que pendant toutes ces années, vous avez dirigé les affaires funéraires de la ville de Paris. Vous avez réfléchi à votre épitaphe ?
Non.
Ah bon ?
Non.
Alors vous passez tant de temps devant des tombes sans vous dire « moi, je vais mettre quoi sur la mienne ?» Moi, j'y pense tout le temps.
Alors non, par contre, j'ai réfléchi à des cimetières où j'aimerais aller, mais j'ai pas réfléchi.
Ah, par exemple ?
J'ai repéré un cimetière dans la Drôme que je trouve très beau, qui est vraiment dans la nature.
Vous avez réservé votre place ?
J'ai pas réservé, mais je l'ai dit à quelques proches. Et je trouve qu'il est tranquille, il est dans des vallées. Et je me suis dit, ouais, là, c'est pas mal.
Et alors, quelle est la plus belle inscription que vous avez vue sur une tombe ?
Donc moi, la phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est cette phrase que vous avez citée tout à l'heure de l'association des morts de la rue, qui dit « chacun était quelqu'un ». Et en fait, les morts de la rue, donc c'est une association qui honore les morts sans-abri, et ce qu'ils font est vraiment incroyable. Donc déjà, ils accompagnent, ils font des cortèges funéraires, en fait, pour les sans-abri. Et puis chaque année, ils comptent, en fait, le nombre de morts sans-abri qu'il y a eu. Et puis, ils font des hommages, ils publient leur nom, et ils rappellent toujours ça, chacun était quelqu'un. Et je trouve ça tellement important, parce que quand on regarde la mort, on voit aussi toutes les personnes qu'on oublie, en fait. On voit toutes les personnes dont on ne veut plus voir la vie ou la mort. Et heureusement qu'il y a déjà le service public pour s'occuper de ces personnes, pour les enterrer. Et puis les associations pour leur donner cet hommage, en fait.
C'est très touchant, ces pages dans votre livre. On voit que le combat pour la reconnaissance de l'existence, de la singularité, se joue aussi, et parfois surtout au moment de la mort. Si on essaye de décadrer un peu notre échange, et qu'on se dit comment ça se fait, en fait, qu'on ait un si mauvais rapport à la mort, qu'on soit dans le déni, dans l'évitement. Je rappelle d'ailleurs qu'en psychologie, dès qu'il y a évitement, il y aura un effet rebond, on le sait. Alors, peut-être pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, on va se prendre le retour du refoulé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de films sur les revenants, les fantômes, les zombies. Ça dit ça aussi, quelque part. On peut peut-être interpréter votre travail dans la relation au fait que beaucoup de gens adorent en ce moment les films de zombies. Peut-être qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas dans ce rapport à la mort. Et ça fait aussi, bien sûr, penser à toutes les thèses du post-humain. Parce que peut-être que d'un côté, il y a une part de nous qui est sensible à ça. On nous dit qu'on va être immortel. On nous dit qu'on va télécharger le contenu de la conscience sur un disque dur. On nous dit qu'on va cryogéniser le corps. Et même si on n'a pas envie de ça, ou si on n'est pas très réceptif, en fait, ça rentre en nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait moins attention à nos morts, et peut-être à notre propre mort aussi.
Oui, c'est très important ce mouvement qu'il y a aujourd'hui du côté du post-humanisme, du transhumanisme, de vouloir annuler la mort. Et alors, ce qui est intéressant dans l'histoire des mythes de mort, c'est qu'il y a, toujours eu des formes de déni de la mort. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Comme je disais, toutes les sociétés jouent avec la mort.
Vous le montrez bien dans le livre.
Voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand certaines personnes nous disent En fait, je vais retarder la mort, je vais annuler la mort, je veux vous rendre immortel. Ça doit nous questionner sur notre lien à la finitude, la finitude personnelle et la finitude terrestre. À quel point on refuse de voir certaines réalités en fait de la Terre, et puis qu'est-ce que ça nous offre réellement comme vie en fait ? Quelle est la promesse derrière tout ça ? Et je crois que ça doit beaucoup nous questionner sur finalement l'idéal que tout cela propose, parce que il est évident que ces promesses, elles sont pas pour tout le monde, elles ont un coût très important. En fait, il y a pas de modèle de société là-dedans.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce qu'on peut nourrir ces thèses transhumanistes pour deux grandes raisons différentes. Soit parce qu'au fond, on a envie d'inventer quelque chose de nouveau, parce qu'on est excité, parce que quelque part, on aime tellement la vie qu'on la voudrait immortelle. Pourquoi pas ? Soit, et c'est une hypothèse développée par le philosophe Jean-Michel Besnier, notamment dans son livre « Demain, les post-humains », parce qu'au fond, on ne l'aime pas, cette humanité. On n'aime pas. On a une honte d'être humain au sens de la finitude que vous venez d'évoquer. On n'aime pas cette limitation. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas voir la mort. Et c'est pour ça qu'on accueille ces thèses transhumanistes avec facilité.
C'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que la finitude est si importante, de prendre conscience aussi de la finitude terrestre et de se dire, voilà, j'accepte ça et je vais apprendre à vivre autrement dans ce cadre-là, en fait. Ce qu'on refuse avec ce transhumanisme.
Parce que ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a presque un moment où on se dit, par rapport aux problèmes de l'époque, l'individualisme, le consumérisme, le productivisme, l'empressement, l'absence de soucis de l'autre, notamment par rapport au SDF, et que quelque part, d'ailleurs je vais lire le passage où vous dites ça, le deuil pourrait être salvateur. Je vous lis, Marion Valeur. Grâce à ces rites, et notamment aux rites dont vous nous dites que nous pouvions les réinventer, nous pouvons poursuivre la conversation. Ça, vous reprenez la très belle idée de Delphine Horviller. Les morts ne sont pas condamnés à être mis à distance. Ils peuvent nous accompagner, nous aider à vivre. Plutôt que de nous pousser au détachement, une nouvelle culture de la mort pourrait nous offrir des pistes d'entremêlement de la vie avec la mort, avec nos morts, et autant de lieux, là c'est l'urbaniste qui parle, qui nous aident sur ce chemin. Le deuil conserve sa part de mystère, de non-rationalisation, de non-productivisme. Que nous soyons croyants ou non, il peut nous extraire d'une temporalité où la tristesse est perçue comme inefficace. Dans une société où la performance est constamment mesurée, le deuil devient presque salvateur.
Oui, effectivement, le deuil, c'est totalement improductif, hein. Le deuil, on ne peut pas en tirer grand chose, ni de l'argent, ni de la reconnaissance. Et donc, c'est pour ça que faire de la place au deuil et justement aussi ne pas écouter ces injonctions aujourd'hui quand on dit vas-y, fais ton deuil. et c'est plutôt vivre son deuil, laisser le temps au deuil. Je crois que c'est presque un acte de résistance aujourd'hui de dire ouais. Oui, bah voilà, c'est totalement improductif, mais en fait, c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que c'est sacré.
Faire son deuil, ça vous énerve comme expression ?
Ouais, je trouve que l'expression faire son deuil, elle a ce côté comme un peu un acte
rapide. Comment on fait le ménage, quoi.
À opérer, ouais, il faut faire le ménage, faut gérer
faut
ça,
faire son job,
et puis
quoi.
Après, hop, on fait son deuil, quoi. Et puis, hop, c'est passé en 3 mois ou en 6 mois. Et en fait, ça marche pas comme ça.
Ouais, c'est quand même. On peut l'entendre autrement. On peut dire faire quelque chose de cette mort. En faire quelque chose dans la prolongation de la discussion avec le défunt. On pourrait l'entendre comme ça aussi.
On pourrait, mais je crois que c'est quand on utilise cette expression aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, je pense que il faut pas forcément se dire le deuil, voilà, je vais le faire et ça va durer 6 mois. Il faut plus instaurer cette conversation, ce que disait Delphine Horviller, créer en fait cette place spéciale pour le mort, créer cette conversation et puis souhaiter qu'elle perdure.
Merci beaucoup, Marion Valeur. On a bien compris votre philosophie de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant, essayer de la dégager pour nos auditeurs, comme je le fais chaque matin. Alors franchement, c'est clair, une philosophie freudienne, évidemment. Une philosophie qui combat l'évitement et le déni. Il nous dit que plus nous saurons faire une place à nos morts. D'ailleurs, la dernière phrase, c'est ça. Hein. Si nous mourrons en sachant que nos communautés vont continuer à se battre pour cette vie, nous ne mourrons plus sans horizon. Une philosophie freudienne, donc, critique de l'évitement, critique du déni, une philosophie de la véritable vie. Une philosophie aussi de la singularité. Vous avez beaucoup souligné cette phrase très, très belle. Chacun était quelqu'un. Alors, vous n'avez pas encore réfléchi à votre épitaphe. C'est aussi une philosophie du présent, d'ailleurs. Et vous nous montrez, Marion Valeur, dans ce joli essai, que finalement, pour être présent maintenant dans cette vie-là, il faut faire une place, redonner une place à nos morts. Merci beaucoup. Cette
Merci.
Émission a été préparée par Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, on retrouve évidemment Valentine Chedebois. Émission excellemment réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Élise Christophe.